Vous êtes venu à Bordeaux, merci beaucoup, pour nous présenter votre livre qui s'appelle Le ghetto intérieur et qui est sorti aux éditions POL, qui est votre famille.
Oui.
Oui. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune homme qui est parti de Pologne pour s'installer à Buenos Aires. Ce jeune homme est votre grand-père. Donc vous racontez une histoire de famille. Et vous racontez donc l'histoire de votre grand-père qui, depuis Buenos Aires, a tardé à répondre et à prendre en considération la position de sa maman restée à Varsovie et donc dans un premier temps emmurée et ensuite déportée à Treblinka. J'ose à peine résumer ce livre. Je vous en laisserai bien la possibilité plutôt qu'à moi. En tout cas, la première question qui va peut-être vous permettre de présenter ce livre autrement et là, donc, que j'ai envie de vous poser, comment vous a-t-on raconté à vous cette histoire ?
Pour continuer le résumé, disons que c'est ce jeune homme qui est arrivé en 1928 à Buenos Aires. Et le livre se passe plutôt entre 1940 et 1945. Et c'est la manière dont il va apprendre ce qui se passe en Pologne en étant donc à Buenos Aires, c'est-à-dire à 12 000 km de distance. Il va apprendre ce qui se passe surtout à travers les lettres de sa mère, donc mon arrière-grand-mère qui est restée en Europe, qui a vécu dans le ghetto de Varsovie. Et à travers des articles de journal, le livre raconte comment il s'enferme un peu dans un autre ghetto, qui est un ghetto intérieur, silencieux, mélancolique. Et cette histoire, elle m'a pas été racontée directement. Je dirais que qu'elle fait partie d'une sorte de mythologie familiale. Je pense que chaque famille crée des histoires avec le passé qui deviennent des histoires vraies, des histoires parfois pas exactement vraies, parfois plus que vraies. J'ai toujours su et j'ai toujours entendu parler du silence de mon grand-père qui est mort quand j'avais 7 ans, donc j'ai peu connu, mais c'est quelque chose qui n'était pas, comment dire, c'était pas un secret, c'était pas un tabou dans la famille de parler de son silence et du fait qu'il n'avait jamais cherché ou jamais trouvé des mots à mettre sur ce que sa famille avait vécu en restant en Pologne et ce que lui, il avait vécu comme culpabilité en étant loin d'eux, en étant pas à l'endroit où il aurait dû être. Donc j'ai toujours, ça c'est le 10e livre que je publie, j'ai toujours pensé, j'ai toujours su que j'allais un jour écrire sur ce silence. J'ai toujours su cela parce que j'écris beaucoup sur mon silence à moi. Donc mes premiers livres ont très souvent des mots qui évoquent le silence dans le titre, laconique, aphone, taciturne. Donc c'est quelque chose qui m'occupait depuis très longtemps. Le vrai déclic, c'était la lecture des lettres de mon arrière-grand-mère. Et ça, je ne les avais pas lues avant parce qu'elles n'étaient pas traduites. En fait, c'est ma mère qui a décidé de les faire traduire il y a quelques années. Et quand je les ai lues, c'est à ce moment-là que j'ai compris la forme que pouvait prendre ce livre que j'ai l'impression que je portais en moi sur le silence de mon grand-père depuis beaucoup plus longtemps.
L'écriture de votre livre semble être donnée par le ton de ces lettres. Votre écriture vraiment a quelque chose de très délicat, comme peuvent l'être les lettres de votre grand-mère, avec en même temps la confrontation à la violence. Mais est-ce que l'écriture de ces lettres a-t-elle donné le ton de votre écriture ?
Oui, c'est quelque chose qui a été c'est assez particulier, parce que c'est un livre qui a plus une forme de roman que mes autres livres. Quand je dis une forme de roman, c'est qu'il utilise des... comment dire, il utilise des moyens voilà, plus proches de la fiction, d'une fiction classique. Il y a des personnages qui sont créés, qui sont des personnages que, de toute évidence, je pense que même quand on le lit en sachant que c'est l'histoire de mon grand-père, on se dit ces personnages-là, ils sont créés en tant que personnages. Les amis, par exemple, avec qui il traîne au café, ces deux personnages-là, je les ai inventés. Il y a un vendeur qui l'engage un moment, qui est un jeune Allemand qui a fui l'Allemagne avec ses parents communistes. Ce personnage-là, c'est une création absolue. C'est pas du tout quelque chose dont on m'a parlé, qu'on a évoqué dans ma famille. Et j'utilise, par exemple, les dialogues qui sont forcément une forme de fiction. Je pense que quand on commence à lire le livre, dès les premières pages, quand on voit que ce personnage de mon grand-père parle avec des amis dans un café et que j'écris les dialogues, forcément on se dit que l'auteur n'était pas là pour les entendre. Donc c'est moyen de fiction que j'étais contente d'utiliser, quoi. J'avais envie d'écrire avec ces moyens-là. En même temps, je pensais que j'allais utiliser les mêmes moyens quand j'allais raconter ce qui se passait en Europe. Ça, c'était mon intention au début. Et finalement, je me suis rendu compte que moi, j'en étais absolument incapable. C'est-à-dire que dès que l'histoire se porte sur ce qui se passait en Europe, très souvent dans le livre, j'emploie des correspondances temporelles. C'est-à-dire que je dis, voilà ce que faisait mon grand-père tel jour de 1940 ou 1941 ou 1942 à Buenos Aires. Et en même temps, en Allemagne ou en Pologne, l'administration nazie était en train de décider de prendre telle décision ou il se passait telle chose dans le ghetto de Varsovie. Et je pensais que chaque fois, en allant, en portant l'histoire en Europe, j'allais continuer d'employer ces moyens de fiction et donc une écriture qui était quand même assez... Ils sont assez libres dans cette utilisation des dialogues, des personnages. Je pensais même que des personnages historiques nazis, par exemple, j'allais en faire des personnages de fiction. Et je me suis rendu compte que moi, en tout cas, j'avais une forme de pudeur qui m'empêchait complètement de faire ça avec cette histoire-là, qui est donc une histoire qui n'est pas une histoire personnelle, qui est l'histoire de la guerre, de la Shoah. Et donc, je crois que c'est ça qui reste comme sentiment, peut-être, dans l'écriture générale, c'est que c'est une écriture assez, je dirais, assez simple, assez économe. J'ai beaucoup enlevé de mots en relisant. Par exemple, quand j'ai enlevé des mots, même dans les rééditions qu'il y a eu du livre, c'est-à-dire entre le premier tirage du livre et ceux qui sont venus après, je n'ai presque jamais changé des choses, ce qu'on fait rarement. Mais souvent, j'ai eu tendance à enlever quelques mots qui me semblaient encore être un peu en trop. Cette économie-là, oui, effectivement, elle peut peut-être venir des lettres de mon arrière-grand-mère. Et en même temps, ces lettres-là, j'avoue, il y a beaucoup de phrases de ces lettres qui sont exactement les phrases qu'a écrites mon arrière-grand-mère. Et il y a des phrases que j'ai réécrites. Il y a même des phrases que j'ai complètement inventées. Et ça, c'est pour dire que le ton n'est pas donné seulement par l'écriture de mon arrière-grand-mère, mais que ça m'a guidé à traiter le passé d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire toujours quand j'écris. J'ai écrit beaucoup de livres qui ont un fond très clairement autobiographique. Et ce qui me semble juste ou pertinent quand on écrit sur le passé, c'est pas de dire ou de trouver des mots pour dire exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire des choses que d'autres mémoires que la mienne pourraient corroborer, mais c'est plus de trouver des mots où l'écho du passé dans le présent prend un sens. Donc, les phrases que j'ai rajoutées ou que j'ai modifiées dans les lettres de mon arrière-grand-mère, c'est des phrases en tout cas, qui, pour moi, ne trahissent pas du tout son écriture ni son sentiment de ce qui était en train de se passer, mais au contraire, lui donnent plus de vérité.
On reconnaît bien, de toute façon, votre façon d'écrire. Ce livre, comme vous le disiez, est le dixième de vos romans. Et de toute façon, on reconnaît bien votre délicatesse d'écriture commune à tous ces ouvrages. Dans celui-ci, néanmoins, effectivement, ce qui est troublant, c'est que vous parlez de votre grand-père en disant « c'était mon grand-père, voici cette histoire ». Et en même temps, comme vous le dites, c'est troublant. À des moments, on a l'impression que vous nous emmenez dans l'histoire d'un personnage qui parle d'exil, qui parle de quête identitaire, qui parle de culpabilité, qui parle de regret. Mais on est toujours dans la lecture de votre livre entre le récit témoignage et le récit de fiction qui nous emporte dans l'univers de ce personnage central qu'on découvre petit à petit. Finalement, vous nous emmenez dans son silence. Ça représente quoi, le silence, pour vous, aujourd'hui, Santiago Amigorena ?
Alors, c'est une terrible question, ça. Bon, je pourrais me taire et vous laisser entendre mon silence pendant quelques longues minutes.
Mais vous n'allez pas le faire.
Mais non, je vais être gentil avec vous et méchant avec moi-même.
Merci.
Et voilà, je vais me contraindre à parler. Le silence, je pense que c'est un grand sujet pour n'importe quel écrivain. Je pense qu'on peut pas. Je ne vois pas comment on peut écrire sans se soucier de ce que c'est le silence. Tous les autres livres que j'ai écrits parlent aussi de silence et parlent de la manière dont le silence contraint à l'écriture. Et en même temps, quand on dit ça, on a l'impression que l'écriture pourrait venir soulager du silence. Et en fait, l'écriture, je pense, c'est une autre forme de silence. C'est-à-dire que l'écriture, c'est des mots qu'on laisse morts sur une page et après qui reprennent vie quand on les lit. Mais quand ma parole, là, elle s'adresse à vous, vous pourriez l'interrompre ou la relancer. J'espère que vous le ferez tout à l'heure, même si vous n'avez pas de micro pour le moment. Mais voilà, l'écriture, c'est, en tout cas pour moi, une forme de silence différent. On pourrait s'embarquer, ce serait très long d'expliquer tout ce que je pense par rapport au silence. Disons que je crois que l'écriture n'est pas faite pour n'est pas le contraire du silence. C'est une autre forme de silence dans laquelle il faut respecter des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas dites, et surtout donner la liberté au lecteur de ne pas lire exactement ce qui a été écrit, ou en tout cas pas toujours de la même manière. Donc, je dirais que c'est peut-être la qualité d'une écriture littéraire, c'est de provoquer des lectures qui sont libres, donc qui ne sont pas guidées. Et dans ça, il y a quelque chose qui est, pour l'auteur, en tout cas du côté du silence, parce que on se met en retrait, bizarrement, alors qu'on donne à lire, que c'est nous qui décidons quels sont les mots qui vont rester sur le papier. Il faut aussi se retirer pour que ce soit le lecteur qui trouve cette liberté. C'est pour dire à quel point l'écriture, pour moi, est différente de la parole. Après, disons que ce que j'écris depuis 25 ans, c'est mon histoire par rapport au silence, et c'est la manière dont le silence, en gros, m'a contraint à écrire. M'a contraint à écrire des textes qui ne m'ont pas, qui ne m'ont pas guéri du silence. Et donc, à un certain moment, à la fin de l'adolescence, j'ai décidé d'écrire une sorte de livre un peu monstrueux qui essaye de tarir toute l'écriture pour ne plus écrire, ou pour ne plus écrire que de la poésie, qui serait ce qui se rapproche peut-être le plus d'une opposition véritable au silence pour moi. Mais le silence de ce livre-là, du ghetto intérieur, donc qui est le silence de mon grand-père, ce qui m'intriguait, ce que je voulais essayer de comprendre, c'est comment il m'avait été transmis. Parce que souvent, quand on parle de transmission, on se dit que la seule chose qu'on peut transmettre, c'est le contraire du silence, justement. C'est des histoires, c'est une mémoire qui passe par la parole, une expérience qui passe par la parole, à la limite qui passe par des gestes, mais toujours des gestes parlants, entre guillemets. Moi, ce que j'ai toujours senti par rapport à mon grand-père, c'est qu'il m'avait transmis en partie un silence. Et que ce silence qui a imprégné un peu toute ma famille, c'est-à-dire que ce n'est pas une transmission seulement directe, mais c'est une transmission qui a été faite à travers ma mère, à travers mes tantes. Comment j'ai pu hériter de ça ? Comment j'ai pu... Comment un silence qui, dans le cas de mon grand-père, était provoqué quand même par quelque chose de très terrible, de très important historiquement, c'était transmis. Et je me suis rendu compte en écrivant et en parlant du livre, surtout depuis qu'il a été publié, que c'était un silence qui était assez commun. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de gens, de survivants... dans le cas de mon grand-père, ce n'est pas un survivant direct de la Shoah. Il était très loin, il n'a jamais été en danger, il n'a jamais été affecté directement par l'extermination des Juifs en Europe. Mais il a trouvé comme solution de se taire. Et ce silence-là, voilà, il a pris quelques... Dans mon cas, deux générations quelqu'un essaye de trouver quelques mots pour le dire.
Vous faites un témoignage à la fin de votre livre où vous parlez de vous, de votre famille aujourd'hui, de vos cousins, de vos tantes, de vos parents. Et vous remerciez un de vos cousins pour vous avoir permis d'écrire ce livre. Pourquoi ?
En fait, en plus des lettres de mon arrière-grand-mère, donc que j'ai lues il y a 4-5 ans, l'un de mes cousins, donc qui est aussi un petit-fils du personnage principal de ce livre, a écrit un livre qui s'appelle « Les grands-pères ». C'est écrit en espagnol, ça s'appelle « Los abuelos », et qui est un livre où il retrace la vie de ses deux grands-pères, donc celui qu'on partage et son grand-père paternel que je n'ai pas connu. Et dans ce livre, donc, qui raconte toute la vie de ces deux hommes, donc l'un juif polonais, l'autre républicain espagnol, qui tous les deux, par hasard, se retrouvent allés en Argentine, et dont, par hasard, la fille de l'un épouse le fils de l'autre, pour donner naissance à mon cousin, il y avait sur les 300 pages que fait le livre, il y avait une vingtaine de pages qui m'ont beaucoup touché et qui parlaient de ce moment-là, du moment où mon grand-père ou notre grand-père commun recevait des lettres de sa mère à Buenos Aires. Et quand j'ai lu ça, je lui ai dit tout de suite, un jour, je vais écrire un livre qui va être que sur cette petite période-là. C'est un cousin très proche, évidemment, il m'a dit aucun problème, et maintenant il est en train de le traduire à l'espagnol. Donc c'est un petit cercle d'écriture. Mais c'est vrai qu'on est deux, nos deux mères, donc les deux filles du personnage principal de ce livre, qui s'appelle Vicente Rosenberg, sont psychanalystes, donc elles ont consacré un peu leur vie à écouter, et leurs deux fils, quoi, mon cousin et moi, on consacre notre vie à essayer de trouver des mots pour l'écrire.
Il n'y a pas que le silence que vous partagez avec votre grand-père. On le voit bien dans tout votre travail, et pas seulement littéraire, aussi dans votre écriture et dans les films que vous avez réalisés ou écrits, ou auxquels vous avez participé. Il y a aussi cette question de la quête identitaire, parce que votre grand-père n'est pas seulement finalement muet parce qu'il n'arrive pas à sauver sa mère à temps, mais aussi parce qu'il se sent incroyablement coupable d'être parti de Buenos Aires pour trouver sa place, c'est-à-dire s'éloigner de sa famille, qui est un réflexe d'adolescent assez sain au demeurant, que finalement il va payer cher.
Oui, il est parti de Varsovie.
Pour aller de Varsovie, pardon, excusez-moi.
Non. C'est là aussi où la mythologie familiale, il faut l'adapter quand on écrit de la fiction, je pense, ou en tout cas choisir de quel point de vue on va raconter tout ça. Mon grand-père, selon les différentes sources que je pourrais consulter, c'est-à-dire ma tante, ma mère, leurs cousins, leurs cousines, est partie pour des raisons différentes. Par exemple, ma mère, qui, je pense, je le dis bas pour qu'elle n'entende pas, elle est à Paris, mais je pense qu'elle idolâtre un peu son père. Et donc, elle a fait beaucoup de recherches pour savoir quelle était l'ambiance en Pologne, à l'université, entre, disons, 1926 et 1928. Elle a trouvé qu'il y avait eu quelques incidents antisémites. Et donc, elle est convaincue qu'il est parti surtout pour fuir l'antisémitisme qu'il y avait déjà en Pologne dans ces années-là. D'autres personnes de ma famille pensent qu'il est parti parce qu'il voulait s'éloigner de sa mère, d'autres parce qu'il avait des problèmes d'argent, d'autres parce qu'il rêvait d'aller en Amérique, comme plein de gens. Voilà. En tout cas, moi, je ne donne pas de solution à tout ça. Je raconte l'histoire de quelqu'un qui part pour toutes ces raisons, sans préciser laquelle est la plus importante. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il est parti et quand il est arrivé à Buenos Aires, comme plein de Juifs qui sont partis d'Europe pour aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il ne se sentait pas spécialement juif. Il n'avait pas... il venait d'une famille qui n'était pas du tout pratiquante. Lui préférait parler en polonais ou en allemand, même à parler en yiddish. Voilà, c'était comme plein de juifs aussi qui sont restés en Europe de l'Est. C'était vraiment un univers. Il y avait une culture très forte, mais qui ne reposait pas du tout sur des normes strictes, religieuses ou même culturelles très strictes. Il y avait... Sur les millions de Juifs qui habitaient en Pologne, il y avait des paysans, il y avait des riches, des pauvres, des gens qui parlaient yiddish, d'autres qui parlaient plus yiddish. Quoi. Vraiment, c'était très, très varié. Et lui, arrivant à Buenos Aires, il s'est senti argentin. Il a épousé une fille de Juif russe, mais avec qui il parlait en espagnol. Quoi. Il a toujours parlé espagnol avec ma grand-mère. Et ce que raconte un peu le livre, c'est comment, ayant trouvé une nouvelle identité en Argentine, qui est une identité, à mon avis, dans le plus beau sens qu'on peut donner au mot identité, c'est-à-dire c'est une identité mouvante, qui n'est pas définie. C'est-à-dire, il pouvait très bien se sentir juif à 5 heures de l'après-midi et amant de sa femme à 8 heures et père de famille le matin en se réveillant et amateur de tango... quand il écoutait la radio, quand il allait danser. Voilà, c'est cette forme d'identité qui est ce que je défendrais, disons, comme identité de l'être humain. Tout d'un coup, le nazisme, comme à plein de juifs, lui a interdit de garder cette liberté. C'est-à-dire, tout d'un coup, face au nazisme, il n'a plus été que juif. Et donc, c'est un peu comment il se débat avec ce sentiment-là, avec cette perte de liberté. Donc, c'est qui fait aussi partie des pierres qui construisent le mur qu'il bâtit autour de lui pour faire son ghetto.
Vous écrivez des pages vraiment remarquables qui posent question sur justement cette question de l'identité qui sera définie par le nazisme et qui oblige les juifs à ne se sentir que juif. Vous écrivez vraiment des phrases qui sont assez percutantes. Vous dites à un moment donné, par exemple, que Vicente se demande dans quelle mesure cette identité n'est pas une valise à la fois très lourde à porter et en même temps une fierté merveilleuse. Et puis vous expliquez dans la continuité de cette phrase une fierté pourquoi ? De quoi ? Donc vous prenez vraiment le temps dans ce livre de poser cette grande question qu'il reste finalement aujourd'hui et qui s'est transmise.
Oui, je pense que c'est... moi aussi, j'ai connu l'exil. Quoi. Bon, je dis ça un peu à la fin du livre aussi. Donc, j'ai suivi mes parents qui ont fui la dictature en Argentine et en Uruguay. On a une partie d'Argentine en Uruguay, puis du Uruguay en France. Donc on a fait un peu le chemin contraire de mes grands-parents. C'est-à-dire qu'on est revenu en Europe. Et le livre aurait pu s'appeler L'exil intérieur. Je pense que c'est pas très, très différent. Donc la question de l'identité, évidemment, je me la pose depuis toujours. C'est chez une... Par exemple, ça m'énerve quand on dit que je suis un écrivain franco-argentin. En tant qu'écrivain, je ne suis que français. J'écris en français. C'est vraiment ma langue d'écriture. Et en même temps, si quelqu'un, quand je suis devant une télé à regarder un match de foot, si on me dit que je suis français, je suis furieux parce que je ne suis pas du tout français si je regarde un match de foot. Donc, voilà, et je pense qu'on est absolument tous comme ça et qu'on passe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est-à-dire qu'on définit les gens en donnant... Voilà, c'est pas une étiquette, parce qu'une étiquette, à la limite, c'est quelque chose dont on peut rigoler. C'est pas une étiquette, c'est quelque chose où on met en face de l'impossibilité d'être un peu quelque chose d'autre, de changer de sentiment par rapport à soi-même. Donc, c'est tout ça que vit très profondément le personnage de mon grand-père pendant la guerre.
Alors, donc, il reçoit ses lettres, il est de plus en plus bouleversé. On voit bien qu'il comprend, en fait, son histoire s'inscrit dans l'histoire, parce qu'on voit bien qu'il comprend, comme vous le disiez, petit à petit, l'ampleur.
Oui.
Et donc, petit à petit, il va décrocher de sa vie, et donc, petit à petit, s'emmurer symboliquement, probablement comme sa maman est elle-même emmurée à Varsovie, et donc s'éloigner. Il y a des passages qui sont tout à fait poignants où sa famille, sa femme, ses enfants tentent de le ramener à la réalité puisqu'il ne parle plus, puis il va parler de moins en moins pour ne plus parler du tout, mais il y a d'abord des étapes. Et donc, il y a cette grande question de ce que représente la famille, ce qu'elle peut sauver, ce qu'elle ne peut pas faire, ses limites.
Oui.
Vous pointez du doigt aussi à un moment donné le moment où la souffrance, ce passage entre sa famille, sa mère, mais sa famille, aujourd'hui ses enfants, qui représentent le présent et l'avenir, et ce personnage, il est entre les deux. Là encore, il doit trouver sa place. Votre mère, vos tantes ont des souvenirs de cette période-là dont vous... Non, pas du tout.
Ouais. Ma tante m'a écrit il y a très peu de temps. Elle a lu le livre en français, ce qui était compliqué pour elle. Donc, et elle m'a dit qu'elle avait découvert son père d'une manière qui lui semblait absolument vraie. En même temps, elle avait jamais pensé à son père de cette manière-là.
Donc, d'accord.
Non, je parle vraiment parce que dans les années 40, donc il s'était... ma mère est née en 34, donc c'était quand même très petit, tous les enfants. Donc c'est pas non, cette partie-là est vraiment
votre
je suis allé chercher beaucoup plus dans mon sentiment familial par rapport à mes propres enfants. Après c'est particulier parce que je sais qu'il y a des gens qui ont lu le livre, surtout des gens très jeunes, des lycéens qui m'ont dit. C'est étrange d'avoir écrit sur quelqu'un d'aussi lâche. C'est-à-dire que il fait du mal à sa famille. Il n'y a pas de doute. Moi, en écrivant, et je pense que je continue à le penser, je crois qu'évidemment, ce qui arrivait était tellement terrible, tellement énorme que j'ai tendance à excuser sa lâcheté ou à excuser le mal qu'il faisait autour de lui parce que son silence était très destructeur. C'était pas un jugement moral de la part des lycéens qui m'ont dit ça, mais je pense qu'il y a une dimension, comment dire. Souvent, on dit qu'on peut faire dire n'importe quoi au silence de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un est silencieux, on peut le prendre de plein de manières différentes. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire le silence dans lequel ils sont enfermés, dans lequel ils sont fermés pendant tout le livre, contraint un peu sa famille à un silence qui détruit des liens, quoi, qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est plus joyeux, qui n'est plus enfantin.
Mais votre livre est très délicat sur cette question. Vous ne portez aucun jugement et c'est en cela aussi qu'il pose question. Hein. C'est que, au contraire, vous êtes vraiment très attentif. Voilà, comme vous le dites, vous avez posé les choses. En tout cas, ce qui est très intéressant dans votre écriture, c'est que, à votre façon et dans cette façon de l'écrire, vous posez la question de la famille, de la famille d'avant, de pendant, d'après, de ses limites. En tout cas, à la lecture, je trouve qu'il ressort cette question-là, probablement de façon différente pour les lecteurs.
Oui, comme je disais, je pense que tout ça, je n'avais pas pensé avant que vous me posiez la question aujourd'hui, mais... Je pense que je suis allé chercher beaucoup plus dans le sentiment que moi j'ai par rapport à ma famille, le sentiment que j'ai par rapport à ce que mon silence a pu faire à mes enfants. Bon, évidemment, je n'ai pas de drame historique aussi grand qui est contemporain de mon histoire familiale présente. Donc mon silence a été évidemment beaucoup moins grave et beaucoup moins... la légèreté de ce sentiment la liberté que j'espère donner au lecteur de juger lui-même, que ce soit de considérer comme des gens très jeunes, des lycéens, qu'il est lâche ou d'absolument comprendre ce silence comme je pense le ferait quelqu'un qui a peut-être une connaissance un peu plus sensible de la situation historique. Ça, je laisse absolument la liberté. Mais en tout cas, moi, je pense que je suis allé chercher plus dans un sentiment personnel, pour le coup, que dans un sentiment dans une création de fiction à partir de ce qui s'est passé il y a 75 ans.
Alors, on parle beaucoup de ce personnage central, effectivement, qu'on suit pas à pas. Mais les femmes ont une place très importante dans votre livre. Il y a sa mère, bien sûr. Donc, qui le met dans une position délicate. Il s'est éloigné d'elle en mettant des kilomètres entre sa mère et lui. Bon, okay. Et puis, il a sa femme. Et finalement, dans ces deux personnages féminins, à la fois discrets, qui ne demandent rien, qui ne se plaignent pas, qui ont en commun ça, hein, toutes les deux, qui ont un amour débordant, qui ne jugent pas, qui accompagne aussi bien que possible. Il y a un lien très fort dans ces deux personnages féminins comme des piliers autour de ce personnage qui s'emmure.
Oui, je dirais que la mère se plaint un peu jusqu'à... En tout cas, c'est ça la lecture des lettres que j'ai faites, moi. Ça, c'est vraiment la réalité. Jusqu'en 1937-38... Elle se plaignait pas mal. Elle se plaignait beaucoup que son fils lui écrivait pas assez souvent, qu'il revenait pas la voir, qu'il était trop loin. Et en fait, les plaintes s'arrêtent vraiment à partir du début de la guerre. Sa femme, par contre, ma grand-mère, c'est un personnage qui... Encore une fois, j'ai plutôt bien connu ma grand-mère, beaucoup mieux que mon grand-père. Elle est morte plus tard. Mais c'est un personnage de fiction dans le sens où je pense que j'ai mis toute la douceur que moi j'ai ressentie dans ma relation de petit-fils avec sa grand-mère, dans la relation qu'elle a avec son mari. Donc je pourrais pas dire que c'est son amour... Son amour pour son mari était exactement comme ça. Mais ma manière à moi aujourd'hui de parler de ma grand-mère en étant sincère par rapport à ce que je ressens a fait que j'ai mélangé les deux. J'ai mélangé mon sentiment d'amour filial de petit-fils et l'amour lequel elle pouvait avoir pour son mari. Mais... Je pense que c'est quand même ces deux personnages différents. Mon arrière-grand-mère, dans les lettres, c'est assez impressionnant comment, à un certain moment, elle arrête de se plaindre. Évidemment, c'est un moment où ces lettres deviennent beaucoup plus rares parce qu'il n'est pas facile d'envoyer des lettres. Je n'avais pas envie non plus de faire des caricatures de mères juives. Ce qui est pas très difficile à faire. ça, je pourrais m'inspirer. J'en connais. Mais, Mais c'est, oui, c'est un personnage que quoi, le personnage de ma grand-mère, je pense, dans le livre, a pris de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que c'est une des choses que j'ai. Quoi, c'est les pages que j'ai écrites un peu en dernier, ces pages où voilà, on l'entend parler elle-même. Quoi. C'est-à-dire des dialogues intérieurs d'elle, de ce qu'elle sent. Je sais qu'il y a une phrase, par exemple, dont on m'a parlé souvent, qui intrigue, mais je crois qu'il donne beaucoup de force à ce personnage, c'est que en face de son mari, qui se sent tellement coupable d'avoir abandonné sa mère ou de n'avoir pas pu la sauver, de ne pas pouvoir retourner en Europe pour l'amener en Argentine, ne pas avoir insisté suffisamment avant la guerre pour qu'elle vienne. Donc sa femme, ma grand-mère, à un moment pense qu'elle ne peut pas l'aider à ne pas se sentir coupable parce qu'elle ne pourrait pas lui dire « tu n'es pas coupable » parce qu'il est coupable. Il est absolument coupable. Il est parti de Pologne. Il voulait s'éloigner de sa mère. Il l'a abandonnée. Et je crois que ça, elle le dit avec une sorte de simplicité qui fait que ce ne sont pas des mots de reproches méchants. Quoi. C'est une espèce de constat de la réalité qui ne l'empêche pas du tout de continuer à l'aimer. Et c'est vrai que ce sentiment-là, c'est un peu le sentiment que moi-même j'ai par rapport à mon grand-père. C'est-à-dire quand je dis que son silence, sa culpabilité, même si elles étaient destructrices, je ne veux pas les juger, c'est que je ne pense pas qu'à ce moment-là, on pouvait vraiment juger ce que sentait quelqu'un qui vivait un moment aussi terrible. C'est un peu la phrase qui est en exergue du livre, qui est une phrase de Gunther Anders, qui dit en gros que on peut pas, en parlant des Juifs pendant la guerre, il dit on peut pas reprocher un poisson jeté sur la rive de ne pas se faire pousser des petits pieds pour retourner dans son élément humide. C'est-à-dire, c'est pas la faute du poisson s'il meurt quand il n'a pas d'eau, quand il ne peut plus respirer. On peut pas lui demander de changer tout pour être autre chose. Et c'est pas une particularité des Juifs. Hein. C'est un être humain. C'est simplement un être humain. On peut pas lui demander de devenir autre chose qu'un être humain pour avoir une réaction différente quand il est en face d'un malheur qui est trop grand.
C'est en cela que votre livre est vraiment passionnant, puisque ce personnage peut être votre grand-père, donc on sait que cette histoire est réellement arrivée. En même temps, ça pourrait tout à fait être un personnage que vous avez complètement inventé. Dans les deux cas, peu importe ce qu'il en ressort, c'est une grande bienveillance sur le constat, à un moment donné, que la violence peut effectivement nous faire agir ou réagir, et qu'il n'est pas question de jugement, il est question de fait.
Oui, je pense que c'est sans doute quelque chose que j'ai voulu faire, quoi. Je n'en ai pas pris conscience aussi clairement en écrivant. De toute façon, c'est toujours un plaisir, quand on écrit, d'essayer de comprendre après ce qu'on a écrit, parce qu'évidemment, quand on écrit, on n'a pas toutes les intentions ne sont pas là. Et finalement, il y a des choses qu'on apprend après en voyant ce que c'est les lectures. Je pense que c'est très clairement... mon souci était très clairement pas de juger, c'est sûr. De parler d'un malheur en disant que c'est un malheur inévitable, que...
Non, et votre livre est très pudique, hein, de toute façon.
Enfin, oui, c'est vrai qu'en plus on parle. Bon, j'espère qu'il y en a qui ne l'ont pas lu. Je dis à la fin du livre que c'est mon grand-père. Quoi. C'est pas ça, j'ai jamais pensé à le dire au début. Ça m'aurait semblé. Il y a un moment où ça m'a même semblé grossier de le dire à la fin. Mon éditeur avait beaucoup aimé depuis le début les dernières pages du livre. Donc elles sont toujours là, mais...
Mais ça ne change rien, en fait, à la force de votre écriture.
Voilà, je pense que c'est ça.
Vraiment. On est emporté avec ce
personnage. Oui. C'est que c'est pas un livre qui c'est pas un témoignage, c'est pas un récit d'après des faits réels. En tout cas, c'est pas de ce côté-là que j'espère réside l'intérêt du livre.
Et alors, c'est un capitaine aussi,
Oui.
Alors, c'est intéressant aussi, cette partie de ce personnage que vous présentez finalement comme possiblement trahi aussi par une autre famille, qui serait celle qui a été liée à un engagement de sa part à un moment donné, et qui finalement a été assez méprisante avec lui.
Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dire. Évidemment, je ne l'ai pas créé, ça. Mon grand-père a été soldat dans l'armée polonaise. Donc, je pense qu'il s'est senti vraiment très polonais, même patriote polonais, à un certain moment, en se battant contre les bolcheviks au début des années 20. Il s'est senti trahi par un pays qu'il a accepté dans les rangs de son armée, et qui ensuite lui a dit quand même, voilà, tu n'es pas comme nous, tu es juif. Ce qui est aussi un cas assez classique, disons. En France, on a très clairement cette expérience avec les Africains qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui revient dans plein d'histoires de pays différents. Mon grand-père l'a vécu en Pologne en tant que juif. Par rapport à ce, voilà, moi, il y a eu un élan très fort patriotique dans les années 20 en Pologne. Mais encore une fois, quoi, je n'ai pas voulu dire que c'est seulement ce sentiment de trahison qui avait fait qu'il parte. En tout cas, ça a forgé cette identité qu'il a, il a été très polonais, il s'est senti extrêmement polonais. C'est quelqu'un qui adorait la poésie allemande, donc il rêvait d'une certaine manière d'être allemand aussi dans les années 20. Comme moi, je l'ai connu très argentin. Donc, je pense qu'il s'est vraiment senti très, très argentin et qu'il a voulu être argentin. Et tout ça se mélange avec toutes les autres formes d'identité qu'il a dû traverser dans sa vie. Et son drame, pour moi, c'est clair. En tout cas, son drame, ça a été qu'on lui dise à un certain moment qu'il fallait n'être que juif.
Ouais, alors, en cela, votre livre est vraiment en étoile, comme l'identité de votre grand-père. Parce que du coup, vous donnez vraiment beaucoup de points de réflexion sur ce que peut provoquer l'exil, ce que peut provoquer la différence de langue, la trahison d'une patrie à un moment donné, l'amour d'une langue, le lien à la famille. C'est en cela que votre écriture est très très forte. C'est-à-dire que finalement, votre grand-père à un moment donné, ou ce personnage, il finit par être un peu noyé par tout ça.
Oui, c'est ça ce que je ressens maintenant en parlant quand même souvent du livre, en ayant souvent des retours de lecteurs, c'est que le personnage de mon grand-père excède un peu tout ce que moi je voulais dire sur lui, c'est-à-dire moi je pouvais percevoir ce en quoi mon grand-père était aussi moi, c'est-à-dire comment je pouvais parler de mon exil à moi, ou du fait que j'écris en français alors que ma langue maternelle est l'espagnol, de la même manière que lui. Il s'est retrouvé à parler espagnol ou à parler polonais ou à aimer la poésie allemande alors qu'il avait été élevé dans une autre langue. Donc ce personnage, je pense, concentre finalement beaucoup de choses qu'il excède, et qui excède aussi ce moment historique. C'est pour ça que j'aime pas non plus beaucoup quand on dit que c'est un livre sur la Shoah. Pour moi, c'est pas... c'est un contexte, évidemment un contexte très important. Moi, je n'étais pas du tout un spécialiste de cette période, donc j'ai beaucoup lu pour écrire le livre. Je n'avais pas beaucoup lu avant sur la Shoah. Et c'est un peu pareil, pour revenir au tout début, c'est-à-dire quand je parlais un peu d'économie, les choses les plus terribles que j'ai lues sur la Shoah, vu que la littérature sur la Shoah est immense, on peut vraiment chercher beaucoup de choses dans les centaines de livres et les milliers de pages écrites sur la Shoah. Quand il y avait des choses vraiment trop terribles, je n'arrivais pas à les mettre dans le livre. C'est-à-dire que je voulais pas... j'aurais senti comme une trahison de raconter moi qui n'ai pas une place simple ou claire, définie par rapport à tout ça. Une place d'où je peux parler de manière simple. Je pense qu'il n'y a aucune place simple. Hein. Primo Levi disait que même la place de survivant ayant passé des années dans le camp n'était pas simple. Mais donc, ma place qui est extrêmement éloignée de tout ça, je ne pouvais pas parler de ces choses quand elles étaient trop, trop terribles. Donc finalement, j'ai enlevé aussi des détails sur ce qui s'était passé en Europe qui me semblait pas forcément terrible dans le côté sanguinolent, hein, terrible aussi par rapport à ce que ça dit sur le mal banal ou sur l'administration, sur la bureaucratie. Mais en tout cas, il y a une forme d'économie aussi de ces histoires-là, de ces anecdotes.
Mais votre livre résonne, fait vraiment écho à d'autres contextes de guerre. D'ailleurs, vous le dites à un moment donné. Hein. Vous dites, de toute façon, c'est pas la Shoah qui a inventé le principe d'extermination du pouvoir et de la haine.
Oui, aussi la manière dont... Je crois que c'est, quoi, je parle beaucoup de la façon dont pendant ces années-là, on savait, on ne savait pas à la fois. C'est-à-dire qu'on pouvait savoir à travers des articles de journaux et en même temps, on lisait les articles et finalement, ils n'avaient pas... les articles de journaux qui décrivaient l'extermination des Juifs en Pologne n'ont pas du tout eu l'écho qu'on pouvait imaginer qu'ils auraient, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Argentine. Et tous ces gens qui vivaient, qui pouvaient savoir, qui lisaient ce qui se passait et qui en même temps ne réagissaient pas, c'est vrai que ça, c'est un sentiment que moi, j'ai eu par rapport à l'Argentine, à la dictature en Argentine, mais qui est effectivement un sentiment qu'on peut avoir dans plein de situations dans tout notre quotidien. Je pense qu'on passe notre temps à savoir et à ne pas savoir, à se mettre à distance, à continuer à vivre, alors que il y a des choses qui devraient presque nous empêcher de continuer à vivre.
Bon, c'est en cela que finalement que vous soyez silencieux est un grand avantage pour la lecture, c'est que ça donne un livre d'une écriture d'une grande pudeur qui n'est pas mélodramatique ou qui n'est pas sanguinolent, comme vous le dites. Donc finalement, c'est la grande qualité.
Je vais continuer à dire que je suis silencieux, mais je n'ai plus aucun crédit sur cette question.
Santiago Amigo Nera, on découvre dans votre livre aussi, enfin moi j'ai découvert l'île de Madagascar. Moi je ne connaissais pas cette histoire, ce projet.
Oui, en fait c'est un projet, c'est connu et pas connu à la fois, c'est-à-dire que quand j'ai écrit, je peux le dire parce que mon éditeur se cache quelque part dans la salle. Quand il y a une première version du livre où ces trois personnages, mon grand-père et deux amis, qui discutent du fait que les nazis prévoient à un moment d'envoyer tous les juifs d'Europe à Madagascar. Ça s'appelle le projet Madagascar. Et donc mon éditeur qui est là m'a dit mais c'est pas possible, c'est pas crédible que ces personnes, ces Argentins à Buenos Aires discutent du projet Madagascar, c'était pas assez connu. C'est vrai, c'était pas très connu, c'était quand même public, ça a été avoué par l'administration nazie. Ça même à un moment ils ont même voulu qu'on en parle, justement, parce que ça donnait une sorte de crédibilité à un projet de solution territoriale, comme il disait à l'époque. Et donc, j'ai fait une introduction, qui est pour le coup purement un moyen de fiction, où il y a un des personnages qui a croisé un diplomate français qui lui a raconté cette histoire parce que les Allemands devaient avoir l'accord de la France pour que ce soit à Madagascar, parce que Madagascar était une colonie française. Ça c'est typiquement quelque chose. J'avais entendu parler de ça, mais je ne connaissais pas les détails et j'ai lu un peu précisément ce que c'était, ce que ça avait été ce plan, pourquoi il n'avait pas fonctionné. Tout est extrêmement renseigné, c'est-à-dire que les livres d'histoire factuelle sur la Shoah sont impressionnants parce qu'on a gardé quand même énormément de documents. C'est-à-dire que toutes les discussions administratives nazies, elles sont encore conservées. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment deux ministères, par exemple, discuter sur le fait, oui, mais si on envoie tant de millions de personnes à Madagascar, et si on ment en disant que ça va être un État juif, mais en gardant un gouverneur de la Gestapo qui va organiser tout ça. Donc le but, c'était pas de les exterminer à ce moment-là, mais quand même de garder le pouvoir, qu'ils puissent servir d'otages par rapport aux Juifs qui étaient aux États-Unis et qui auraient pu, à un certain moment, pousser les États-Unis à prendre part dans la guerre. Donc c'est avant l'intervention américaine. Tout ça a été... La littérature sur ça est vraiment passionnante parce que tout est documenté.
Encore une fois, plus que le principe historique même, votre livre, votre écriture, là, vraiment, votre travail d'écrivain, dans ce livre, s'attache particulièrement à la question de l'oubli et de la mémoire, de façon différente, à la fois sur ces faits historiques, mais aussi sur le fait que vous faites dire à votre grand-père à un moment donné que, pendant longtemps, pour lui, l'oubli était plus important que la mémoire. De la même façon que vous lui faites dire aussi, en lien avec sa femme, que le passé ne peut pas se raconter. Donc, il y a quand même un fil conducteur aussi dans votre livre, cette grande question de ce qu'il faut oublier, de ce qu'il faut transmettre aussi, de ce dont il faut se souvenir.
Oui, moi, j'ai toujours été plutôt du côté de l'oubli. Quand on écrit sur la Shoah, c'est compliqué de dire ça. Ça pose beaucoup de questions. Quand je dis ça, c'est que j'ai écrit 10 livres qui parlent de mon passé. Donc je peux dire que je travaille avec la mémoire constamment. Presque toute ma vie est dédiée à écrire et à lire. Donc, tout ce que je lis, c'est aussi de la mémoire, donc je baigne dans ça. J'ai toujours beaucoup aimé une phrase de Pasolini que je cite dans le livre, qui dit que celui qui oublie jouit plus que celui qui se souvient. Et j'aime beaucoup aussi une idée de Borges, qui est qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'oubli et la mémoire, et que Borges dit que la mémoire est faite surtout d'oubli. C'est-à-dire que je pense que le moment dans le livre où mon grand-père est heureux en famille, effectivement, c'est un moment où il n'a pas besoin de parler du passé. Il n'a pas besoin de demander à sa femme pourquoi et comment ses parents à elle sont partis de Russie parce qu'il y avait des pogroms. Il n'a pas besoin de raconter ça à ses enfants. Et il vit. Il est dans le présent. Il a une vie qu'on peut dire heureuse. Ça ne veut évidemment pas du tout dire qu'il faut nier l'existence de ces choses-là. C'est le contraire. C'est-à-dire, c'est un moment où la mémoire a fait son travail. Elle a guéri des blessures et d'autres gens ou les mêmes personnes plus tard continuent à vivre. Quand je dis que je suis du côté de l'oubli, c'est que je pense qu'on a parfois tendance à ne pas accepter que l'oubli peut être juste réparateur et que l'oubli peut être... quand on fait un deuil, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on n'oublie pas dans le sens de nier ce qui s'est passé, de nier la disparition de quelqu'un, de nier la fin d'une histoire d'amour, de nier une douleur. On essaye de trouver un moyen de vivre avec ça et que ce ne soit plus quelque chose qui nous empêche de vivre. Donc le travail de mémoire est absolument nécessaire, il est tout à fait bénéfique, mais c'est un travail qui doit aboutir à quelque chose. Et je pense que parfois on confond un peu ce que c'est la mémoire et ce que c'est l'oubli, et on se dit que ce travail ne doit pas s'arrêter. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le terme devoir de mémoire, parce que je sens, en tout cas, on peut en parler très longtemps, et c'est une notion qui est assez complexe, mais comme si le devoir de mémoire, c'était le devoir de ne pas oublier, le devoir que ce travail de la mémoire n'ait pas de fin. l'amnistie entre les peuples est basée sur, sur la fin du travail de mémoire. La survie des êtres humains, je pense, est énormément basée sur la capacité à oublier. Voilà, toujours en entendant que oubli est plutôt le contraire de négation. Oubli, c'est plutôt l'élaboration suffisante de la mémoire pour arriver à une réconciliation qui permette de vivre de la meilleure façon.
Et en même temps, en écrivant, vous participez à une forme de mémoire.
C'est le paradoxe, je pense, de l'écriture, et c'est là où on pourrait revenir à ce que c'est le silence dans l'écriture, c'est que j'écris souvent que j'écris pour survivre à mon passé.
Vous l'écrivez, vraiment,
tous mes livres racontent ça. C'est-à-dire que je ne veux pas me mettre à pleurer là parce que ça serait un peu démagogique, mais j'ai un rapport avec le passé qui est plutôt douloureux, quoi, comme plein de gens qui ont connu l'exil. Ou juste des gens comme tous les gens qui vieillissent, c'est-à-dire comme nous tous. Voilà, quand on pense au passé, on peut éprouver une douleur qui est très grande, que ce soit parce qu'on se souvient d'un passé heureux ou parce qu'on se souvient d'un passé malheureux, parce que bon, c'est le propre des souvenirs, c'est que les souvenirs heureux provoquent plutôt du malheur parce qu'on se dit on n'est plus heureux comme avant, et les souvenirs malheureux provoquent aussi du malheur parce qu'on se souvient qu'on était malheureux. Mais bon, donc la mémoire elle-même est plutôt tendue vers une forme de douleur, et moi j'écris pour survivre à cette douleur-là. En écrivant, je pourrais dire, je vous jette ma douleur et je vous demande à vous d'en faire quelque chose. Et moi je m'en débarrasse de cette manière. Je sais pas si quoi, c'est pas le sentiment que j'ai évidemment en écrivant, et c'est pas le but de mon écriture, mais ma manière de survivre, c'est d'écrire. Je pense que c'est pas aller contre la mémoire. Ça, c'est pas essayer d'anéantir la mémoire ou de dire voilà, il suffit juste d'oublier. C'est pas frivole comme rapport, hein, au passé. Mais la mémoire la plus belle, bon, toute la leçon de Proust, c'est une mémoire involontaire. C'est pas une mémoire volontaire. Donc c'est une mémoire qui naît de choses qu'on n'attend pas, et c'est là où elle est pleine, c'est là où elle fait revivre vraiment entièrement le passé. Donc c'est très loin du devoir de mémoire. Et finalement, quand elle aboutit à un livre, elle permet de... Oui, je pense qu'elle permet de s'en débarrasser aussi. C'est-à-dire que les livres, j'ai écrit des livres où je parle énormément de l'Argentine, ça m'a permis aussi de m'éloigner de la meilleure façon de l'Argentine pour pouvoir y revenir d'une autre façon.
Santiago Amigorena, ce sera ma dernière question parce que voilà, on discute, le temps passe. Est-ce que ce livre est une forme de réparation, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de lien, qui pourrait être donc imaginé comme une transmission qui n'aura pas été faite à votre mère, vos tantes? Puisque, on le voit bien, vous imaginez en tout cas que votre grand-père n'a pas expliqué, n'a pas parlé à ses propres enfants et qu'ils ont souffert. Et moi, j'ai eu la sensation en lisant votre livre et en le terminant, puisque vous terminez avec votre propre histoire et vos propres enfants, d'avoir envie, à votre façon, d'essayer de soulager un peu de cette culpabilité en mettant quelques mots, quels qu'ils soient, pour transmettre d'une autre façon.
Oui, ça c'est quelque chose que j'aime bien en général, en pensant à la famille, en pensant aux générations. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement mon grand-père, en face de ce malheur terrible, n'a pas pu faire autre chose que se terrer dans le silence. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu du tout chercher des mots pour dire ce qu'il vivait, ce que sa mère avait vécu en restant en Pologne. La génération suivante, donc il a eu trois filles, elles sont toutes les trois psychanalystes, donc elles ont passé un peu leur vie à écouter plus qu'à parler. Dans la génération d'après, donc il y a mon cousin et moi qui avons écrit des livres sur ça. Donc on cherche des mots. Peut-être c'est la génération suivante, celle de mes enfants, qui va trouver vraiment les bons mots que nous on aura juste cherché, on n'aura pas trouvé. Ou peut-être c'est la première génération qui va vivre avec ça en ayant une relation, voilà, que je dirais plus calme, peut-être plus saine, et qui permet de ne pas nier, de ne pas oublier, mais aussi de vivre sans en souffrir. Donc j'aime bien cette idée que le travail, que ce travail-là, en tout cas, se fait sur plusieurs générations.
Merci beaucoup, Santiago Amigo.
Merci.